Je travaille pour l'Université de Chicago à Paris, donc j'ai fait ma thèse de doctorat. Donc je pense que vous savez ce que c'est une thèse. Donc un doctorat, c'est le plus haut grade universitaire. Donc c'est en fait c'est une sorte de livre qu'on écrit. Voilà, c'est 300-400 pages qu'on écrit sur un sujet. Donc moi, c'était sur l'influence de Montesquieu, le philosophe Montesquieu, aux États-Unis. On va y venir dans un instant. Oui, donc c'était sur voilà, Montesquieu aux États-Unis. Donc entre la philosophie et l'histoire, donc entre voilà, les deux disciplines. Et puis ensuite, j'ai pris un poste à l'Université de Chicago. Donc je m'occupe de diriger l'Institut de recherche de Chicago en Europe. Parce que donc l'Université de Chicago a des chercheurs qui vivent en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient. Et qui donc travaillent avec leurs collègues dans ces différents pays voilà, sur tous les sujets, physique quantique, histoire, littérature, etc., etc. Donc le sujet que je vous ai proposé aujourd'hui, c'était donc sur les États-Unis, et c'était un petit peu provocateur, mais bon, relativement actuel. Voilà. Est-ce que les États-Unis sont encore une démocratie aujourd'hui? Alors la réponse pourrait presque changer d'heure en heure. Est-ce que vous suivez un petit peu l'actualité, notamment l'actualité en provenance des États-Unis? Vous pouvez acquiescer si vous... Oui, donc ça a l'air d'être assez majoritaire. Vous suivez un peu ce qui se passe. Alors, donc je vais faire je vais commencer par un quiz. Alors, voilà, bon. Ah, c'est un peu interactif. Donc, dans la salle, vous pouvez répondre d'ores et déjà à la question. Donc, levez la main ceux qui pensent que les États-Unis sont aujourd'hui encore une démocratie. Les États-Unis sont-ils une démocratie? Si vous levez la main, c'est que vous pensez qu'aujourd'hui les États-Unis sont une démocratie. Donc, on a une petite minorité, merci, on a une petite minorité d'entre vous qui pensent que les États-Unis sont une démocratie. Donc, c'est. En soi-même, c'est assez inquiétant. Donc, évidemment, la question qu'on doit se poser, c'est, mais au fait, qu'est-ce que c'est une démocratie? Alors, et là, on va revenir donc à la base, évidemment, à Montesquieu. Donc, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en 2025, ça peut être utile de se demander ce qui s'est passé en 1787. Donc comme vous le savez, vous connaissez sans doute tous la Révolution française, mais avant ça, il y a eu plusieurs révolutions, notamment la Révolution américaine en 1776. Et après cette révolution, il y a encore un événement qui est la fondation des États-Unis tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec la Constitution américaine, Constitution qui est toujours en place depuis 1788. Donc ça va bientôt faire 250 ans que les États-Unis ont la même Constitution. Alors, bon, je ne veux pas vous faire l'insulte, mais la France est à sa combientième constitution? Voilà, au moins la cinquième, avec entre-temps des empires, des rétablissements de monarchie, la Commune de Paris, etc., etc. Donc les États-Unis, eux, ils ont le même système de gouvernement depuis 250 ans. Ils ont le même système de gouvernement que... Donc, qu'à un moment où ils étaient 3 millions, alors qu'aujourd'hui ils sont 330 millions. Donc, vous imaginez bien que le territoire s'étendait à 13 États et qu'aujourd'hui ils en sont 50. Donc, il y a eu évidemment des changements dans ce régime et heureusement, le changement le plus profond, c'est celui qui concerne la question de l'esclavage. Car comme vous le savez, dans la Constitution américaine, donc l'esclavage est présent. Le terme d'esclave n'apparaît pas. Il y a une sorte de pudeur de la part des pères fondateurs, hein, puisqu'ils parlent de l'importation, donc hein, l'importation, importation of such persons. Donc c'est l'importation des esclaves, hein, donc l'importation comme on parle d'un bien, parce que les esclaves sont considérés comme un bien, comme une marchandise à l'époque. Donc il y a ce premier voilà, passage évidemment qui a été rayé. Un deuxième point sur l'esclavage. Donc à l'époque évidemment il y a 3 millions de personnes donc aux États-Unis blanches. Il y a environ 700 000 esclaves, donc personnes esclavagisées, majoritairement au sud, donc dans les États du Sud, hein, la Géorgie, la Virginie, les Carolines, etc. Une question va se poser, puisqu'on va décider que pour être représenté au Congrès, on va prendre le nombre d'habitants voilà, de chaque État et on va ensuite attribuer à chaque État, en fonction de sa population, un nombre de représentants. Plus il y a de personnes qui vivent dans cet État, plus elles auront de représentants. Problème, il y a beaucoup plus de gens dans le nord que dans le sud. Alors, les gens du sud se disent, bah zut, on va perdre du pouvoir, on va être moins bien représentés. Nos intérêts, nous, dans le sud, ils vont être moins forts dans la capitale fédérale qui, à l'époque, était à Philadelphie, pas à Washington. Donc, comment on va faire? Eh bah, bien, on va faire un compromis, parce qu'en fait, dans le sud, nous, on a des esclaves. Donc, en fait, on va compter les esclaves dans la population. Vous comprenez l'astuce? Donc, vous augmentez artificiellement le nombre de personnes et donc vous avez plus de représentants. Donc, vous allez arriver à une représentation égalitaire entre le nord et le sud. Et la question, c'est d'accord. Alors, comment est-ce qu'on va compter les esclaves? Alors, l'idée, c'est pas du tout de donner le droit de vote aux esclaves, hein. C'est juste de pouvoir les compter dans la population pour donner ensuite plus de représentants aux États du Sud. Et donc, on va dire, cette question assez tragique, combien vaut un esclave? Combien vaut une personne noire? Est-ce que ça vaut autant qu'un blanc? Non. Mais est-ce que ça vaut zéro? Ben non, parce que sinon il n'y a aucun intérêt à les compter, on ne peut pas les compter dans la population. Donc on va dire que un noir, c'est 3 cinquièmes d'un blanc. Et on va multiplier le nombre d'esclaves dans chacun de ces États par 3 cinquièmes. Donc ça, c'est la clause des 3 cinquièmes. C'est dans la Constitution américaine. Évidemment, par amendement, ça a été supprimé. Puisque, voilà, après la guerre civile, les populations noires, ensuite, ont eu le droit de vote. Alors, ça ne s'est pas passé. Donc, la guerre civile, quand même, il faut attendre, voilà, les années 60, enfin, 19e siècle, hein, 1860. Donc, vous voyez bien le temps que ça prend. Et bon, ce n'est pas la conférence d'aujourd'hui, mais ça concerne la démocratie. Juste après la guerre civile, où on donne le droit de vote aux Noirs, les États du Sud vont s'organiser pour empêcher les Noirs de voter pendant encore 100 ans. Jusqu'à ce que la Cour suprême réagisse, donc dans les années 60, cette fois-ci 1960-62. Donc vous voyez, le chemin vers la démocratie, il est très long. Et donc, cet État, les États-Unis, qui ont la même constitution avec des modifications profondes, ils ont un rapport à la démocratie qui est compliqué, un rapport à la démocratie qui n'est pas le même selon que vous soyez blanc, selon que vous soyez noir. Et ça, c'est une question fondamentale encore aujourd'hui pour comprendre les États-Unis. Voilà, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Et cette question que je pose aujourd'hui, les États-Unis sont-ils une démocratie? La réponse ne sera pas la même selon que vous soyez blanc, noir, latino. Les États-Unis sont un pays extrêmement inégalitaire de ce point de vue-là. Et la question des droits, et notamment du droit de vote, que l'on accorde ou que l'on n'accorde pas, elle est centrale pour comprendre les États-Unis. Voilà. Donc je voulais commencer par ça. Une minorité d'entre vous pense que les États-Unis sont une démocratie. Donc, et d'une certaine façon, d'un point de vue historique, vous avez raison. Les États-Unis ne sont pas une démocratie. Les États-Unis sont d'ailleurs l'inverse d'une démocratie. Les États-Unis, au moment de la fondation, se construisent en opposition à la démocratie. Alors ça, voilà, bon, peut-être que vous ne le savez pas, mais effectivement, la démocratie au XVIIIe siècle, donc à la fin du XVIIIe siècle, c'est vraiment pas un régime qui est apprécié par les élites. Et la démocratie, pour eux, notamment donc les élites américaines de l'époque, c'est égal à l'anarchie. Et une des raisons pour cela, c'est que tout simplement, il s'appuie sur la science politique de l'époque. Donc là aussi, donc vous faites tous des études, voilà, vous faites tous de la philo, de l'histoire, etc. Et vous faites aussi des sciences exactes, vous faites de la physique, enfin, là, de l'SVT, des mathématiques. Au XVIIIe siècle, on pense que la science politique, c'est comme la science physique. Vous voyez, il y a Newton d'un côté, et de l'autre, il y a Montesquieu. Voilà. Donc, en sciences politiques, on fait des progrès. La science politique, enfin, voilà, je sais pas, chaque siècle évolue. Et la science politique des Grecs est moins bonne que la science politique des modernes. Bon, voilà. C'est une vision, effectivement, du XVIIIe siècle. C'est une vision de ce qu'on appelle les Lumières. L'idée, c'est que le genre humain fait des progrès et que, au fur et à mesure qu'il réfléchit, eh bien, il trouve des formes de gouvernement plus adaptées à la nature humaine. Et donc, celui qui a fait les plus grandes découvertes au XVIIIe siècle sur la théorie politique, sur la science politique, c'est Montesquieu dans un ouvrage, L'Esprit des lois. L'Esprit des lois, c'est un best-seller. Alors aujourd'hui, on le lit moins. Voilà, je ne pensais pas si Trump a l'esprit des lois à côté de lui hein, tous les jours. Je ne sais pas si, voilà, avant de prendre une décision, il regarde ce que disait Montesquieu. Mais il y a 250 ans, c'est exactement ce que faisaient les pères fondateurs. Vous connaissez peut-être Hamilton, parce qu'il y a eu un show, donc sur, je crois que c'est comment ça s'appelle, à Broadway, il y a eu effectivement tout un show sur Hamilton. C'est super populaire aux États-Unis. Et quand j'enseigne à la Sorbonne, mes étudiants, ils connaissent que le show. Voilà, ils connaissent Hamilton. Donc Hamilton, Madison, Jefferson, donc les pères fondateurs des États-Unis. Vous savez, on entend toujours ce terme de père fondateur. Voilà, ils sont très valorisés aux États-Unis, très appréciés. Même si, voilà, il y a eu là aussi disons des changements d'attitude, parce que, par exemple, Jefferson détenait beaucoup d'esclaves et qu'au moment de sa mort, il a légué ses esclaves à ses enfants. Donc là aussi, finalement, Madison également avait des esclaves. Jefferson, enfin bon, là aussi, c'est une question en fait qui a pris beaucoup d'ampleur récemment. Et donc les pères fondateurs, ils ont à côté d'eux en permanence l'esprit des lois. C'est pas la seule chose qu'ils ont. Mais c'est au moment où ils font la Constitution américaine. Donc, imaginez-vous le contexte. Donc, les États-Unis doivent se réformer. Les États-Unis sont menacés. Au nord, vous avez le Canada. Donc voilà, c'est-à-dire l'Empire britannique. Vous avez également la France, l'Empire français, hein, la monarchie française, qui vraiment menace également les États-Unis. Et au sud, vous avez l'Empire espagnol. Hein, donc voilà, par exemple aujourd'hui la Floride, à l'époque la Floride est sous domination espagnole. Donc les États-Unis sont menacés, alors ils essaient de constituer voilà, un nouveau système de gouvernement pour répondre à ces menaces très importantes, et également aux menaces intérieures, parce qu'à l'intérieur des 13 anciennes colonies, donc des 13 États, il y a des rébellions, il y a des crises, certains ne paient pas leurs impôts, certains ne veulent pas envoyer des soldats pour protéger tel État, etc. Bon, en gros, si vous voyez l'Union européenne aujourd'hui, en encore plus dysfonctionnelle, vous avez ce qu'on appelle à l'époque la Confédération. Donc c'est une confédération. Voilà. Et donc ils se disent, bon, il faut qu'on réforme la Confédération. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà, c'est très simple. On prend Montesquieu, donc on prend voilà, disons le Newton du monde moral, le Newton du monde politique, et on regarde ce qu'il raconte. Et effectivement, Montesquieu dit plusieurs choses, et il donne notamment une définition de la démocratie. Et donc, voilà, je vais vous la lire. Donc, pour Montesquieu, chaque gouvernement, c'est deux choses. C'est une nature, ce que ce gouvernement est, et un principe. Le principe, c'est ce qui fait se mouvoir ce gouvernement. Voyez? Donc, qu'est-ce que c'est la nature de la démocratie? Donc, le gouvernement républicain, sa nature, c'est que dans celui-ci, le peuple encore, ou seulement, donc encore, c'est-à-dire réuni, hein, encore deux mots, voilà, quand il est réuni, comme à l'Assemblée, etc., ou seulement une partie du peuple a la souveraine puissance. Donc, voilà, c'est ça la démocratie. Lorsque le peuple réuni, ou une partie du peuple, une aristocratie par exemple, possède la souveraine puissance. Donc le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple, qui va décider de tout. Des lois, etc., des magistrats qui les lient, etc., etc. Bien. Et donc, qu'est-ce que c'est le principe de ce régime? La vertu. Et Montesquieu l'exprime ainsi. La vertu dans une république est une chose très simple. C'est l'amour de la république. L'amour de la république, la république, hein, vous savez en latin, res publica, la chose publique, donc l'amour de la chose publique, l'amour du bien commun, l'amour des lois de la patrie. C'est pour ça qu'en république, on a plaisir à offrir sa vie pour sauver la patrie. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'offrir sa vie pour la patrie. Vous faites des têtes un peu étonnées, mais voilà. Donc si vous êtes en République ou en démocratie, vous devez être très content quand on vous dit, il y a la guerre, il faut aller sauver la mère patrie. Et donc vous dites, chouette, j'y vais, je sauve ce qui est le plus important pour moi, parce que la vie n'a pas de sens sans la patrie. Voilà. Donc vous voyez un peu le décalage peut-être avec la société dans laquelle les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui. Ce sentiment-là, il existe, on va dire, moins. Et surtout, Montesquieu dit, c'est difficile à inculquer comme sentiment. Il faut beaucoup d'éducation. pour ça. Il faut des collèges, des lycées où tous les jours on dit que la patrie est formidable et qu'il faut vraiment se sacrifier pour elle. Alors je ne sais pas si monsieur le proviseur, vous passez dans les classes chaque jour pour rappeler à vos étudiants qui doivent être prêts à se sacrifier pour la patrie, mais Montesquieu vous dit que si vous êtes dans une république, c'est le minimum. Voilà, donc ça, effectivement, vous avez la définition de la démocratie. Donc vous voyez bien que selon cette définition, c'est un régime difficile. C'est un régime, Montesquieu l'analyse, Montesquieu le voit dans l'histoire. Montesquieu dit oui, effectivement, on voit en Grèce, dans l'Antiquité, des démocraties qui ont existé. Et le problème, c'est que Montesquieu est un peu fatigant. Montesquieu parle de, vous voyez bien, il parle de république et de démocratie. Et au début, on ne comprend pas parce que, il parle des deux en même temps. Et donc on se dit, bon, bah, c'est la même chose, une république, une démocratie. Et puis après, il va dire, mais en fait, la république, ce n'est pas forcément une démocratie. Il peut y avoir différents types de républiques, etc. Et à l'époque où écrit Montesquieu, on s'interroge beaucoup sur ce qu'est la république. Alors, on se dit, mais au fait, est-ce que l'Angleterre, par exemple, c'est quoi? C'est une monarchie ou c'est une république? Parce qu'en Angleterre, il y a un roi, mais en fait, le roi, il n'a pas beaucoup de pouvoir, ou presque aucun pouvoir. Ce qui a du pouvoir, c'est l'Assemblée, c'est le Parlement. Mais donc, est-ce qu'une république, c'est un État où il y a un parlement? Vous voyez, il y a tous ces problématiques-là, elles vont ressurgir au moment où les États-Unis eux-mêmes vont créer leur propre système de gouvernement. Parce que, donc, vous voyez bien que c'est difficile de créer une république, et Montesquieu le dit d'ailleurs, il dit, voilà, dans une république, à la limite, ce qui est fascinant, c'est qu'il dit, c'est un sentiment. La vertu, c'est un sentiment. L'amour, vous voyez, il dit, c'est un amour, l'amour de la République, etc. Donc ce n'est pas une construction intellectuelle, c'est quelque chose que vous ressentez. Quand votre patrie est attaquée, vous ressentez ça. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, on le voit encore aujourd'hui, hein, en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle voilà, the rallying effect, c'est-à-dire rallying around the flag. Quand un pays est attaqué, la popularité du gouvernement de ce pays-là explose, hein, parce que le pays est attaqué, donc on se sent soi-même attaqué. Donc ce n'est pas complètement disparu. Et Montesquieu le dit de manière assez amusante, il dit finalement, ceux dont vous devez vous méfier, ceux qui vont perdre la vertu, ceux qui vont perdre l'amour de l'intérêt, le plus vite, c'est pas le peuple, c'est les élites. Il dit eux, effectivement, ils vont commencer par avoir des intérêts particuliers, distanciés de ceux du peuple. Donc la disparition de l'amour de la patrie, ça commence jamais dans le peuple, ça commence toujours dans les élites dirigeantes. Montesquieu est un peu populiste d'une certaine façon. Donc maintenant j'en viens au deuxième point. À partir de là, à partir de cette définition de la démocratie, est-ce que les États-Unis tels qu'ils sont fondés à la fin du XVIIIe siècle sont une démocratie? Donc évidemment non. Alors évidemment, tout le problème est là. C'est-à-dire que les pères fondateurs lisent Montesquieu et comprennent bien. Ils disent, bah, effectivement, Montesquieu le dit, la démocratie, elle existe, mais dans des petits territoires. Parce que pour que l'amour de la République existe, il faut que vous connaissiez vos voisins, il faut que vous aimiez la communauté, etc. Voilà. Si vous ne connaissez pas vos voisins, si le territoire est trop étendu, s'il y a trop de choses qui vous occupent, si vous avez un travail, si votre société, elle fait une division du travail, etc. Vous n'aurez pas le temps de penser à la République tous les jours. Donc, les conditions pour que la démocratie existe ne sont pas réunies. Et les pères fondateurs américains regardent les États-Unis et se disent, effectivement, les conditions pour une démocratie ne sont pas réunies. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une monarchie? Bon, évidemment, alors certains veulent une monarchie. Hamilton, par exemple, aimerait bien une monarchie. Mais la majorité des pères fondateurs, qui viennent quand même de se battre contre une monarchie, hein, la monarchie britannique, disent ben non, on ne va pas faire une monarchie, on va faire un autre système, on va faire une république. Alors vous voyez, Montesquieu, il fait une sorte d'amalgame entre les deux, mais les pères fondateurs vont vraiment faire attention et vont dire non, c'est pas pareil. Dans une démocratie, le peuple exerce le pouvoir encore, donc il se réunit, à l'Ecclésia, il se réunit au forum, ensuite, soit à l'Agora, soit au forum. Les pères fondateurs vont dire, non, 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 nous, ce qu'on va faire, c'est que les citoyens vont voter, donc les citoyens blancs, hommes, propriétaires, voilà, attention, pas tout le monde, vont voter. Alors, c'est pas tout le monde, mais c'est malgré tout un progrès. C'est ça qu'il faut toujours avoir les deux visions. On peut se dire, bon. C'est nul, voilà, c'est hyper inégalitaire. Certes, c'est inégalitaire, mais c'est un progrès par rapport aux monarchies où bon, bah, la personne ne vote. Hein. Donc voilà, l'histoire c'est ça, on ne peut pas avoir une vision anachronique des choses. Ces citoyens-là qui peuvent voter vont voter pour des représentants. Donc ça c'est une grande invention, une invention qu'on trouve également chez Montesquieu. Hein. Donc des représentants qui vont représenter le peuple. C'est-à-dire que les États-Unis sont tellement vastes qu'on ne peut pas avoir tous les citoyens américains, 3 millions de personnes, qui se réunissent toutes les semaines à Philadelphie pour décider de toutes les lois. On va demander à des représentants de faire ce travail. Voilà. Et donc ça, c'est la grande invention des pères fondateurs américains, c'est la représentation. Sauf que, et là aussi, c'est quelque chose de passionnant, quand les étudiants américains de votre âge apprennent, donc font leur cours d'éducation civique, on leur dit, et voilà, fin de l'histoire. La représentation, c'est super, et tout le monde était d'accord. Ils ont inventé une république représentative, ce qui est une véritable invention. Hein. C'est vrai que c'est un système de gouvernement dans lequel on vit encore aujourd'hui. Vous avez fait des cours de philo, vous avez sans doute vu Rousseau et Montesquieu. Alors, les spécialistes de Montesquieu détestent les spécialistes de Rousseau, et inversement. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, comme on est très peu, les spécialistes de Montesquieu, on est 5 ou 6, et les spécialistes de Rousseau, ils sont une centaine, donc c'est très dur. On doit se battre. Mais nous, on a un château, voilà, à Bordeaux, donc voilà, ils sont très jaloux de nous. En fait, souvent dans la Révolution française, on dit voilà, la Révolution française, c'est Rousseau. Et aujourd'hui, même pour comprendre la France, il faut comprendre que c'est Rousseau, c'est Rousseau. Et nous, les spécialistes de Montesquieu, on dit, mais vous rêvez, on vit dans des sociétés à la Montesquieu. Et on a raison, bien sûr. Aujourd'hui, vous voyez bien que Rousseau, dans le contrat social, si vous avez lu le contrat social, qui est l'ouvrage majeur, hein, qui est beaucoup lu au moment de la Révolution française, Rousseau dit, il faut surtout pas de représentants. Si vous avez une représentation, vous perdez la démocratie, vous perdez la République. Bon, bah, effectivement, mais ils n'ont pas écouté. Hein. Donc, on vit tous aujourd'hui dans des sociétés représentatives avec un parlement, etc., etc. Et avec également une séparation des pouvoirs. Ça, je vais y venir dans un instant. Donc, le problème, c'est que ce qu'on ne dit pas aux Américains, et ça, je l'ai beaucoup travaillé dans ma thèse, bon, maintenant, j'espère qu'on va pouvoir leur dire un peu plus, c'est qu'en fait, la position qui dit on va créer une assemblée, on va créer un congrès avec des représentants, etc., elle n'est pas du tout majoritaire. En fait, c'est une position minoritaire. C'est-à-dire que la plupart des gens ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord sur quoi? Ils ne sont pas d'accord sur le fait que les États-Unis puissent devenir une république. Parce que, donc, ils vont beaucoup citer Montesquieu, et notamment un passage, donc je vais essayer de vous le lire, voilà. Donc, si vous voulez, quand vous lisez les gens qui s'opposent au fait d'avoir une nouvelle constitution aux États-Unis, donc ce qu'on appelle les antifédéralistes, hein, donc l'opposition politique, ce qu'ils font, c'est assez amusant pour les spécialistes de Montesquieu, donc vous en lisez un, donc voilà. Donc déjà, ils ont des noms, ils prennent des noms romains. Donc par exemple, celui qu'on va voir là, il s'appelle Brutus. Voilà. Alors c'est pas le Brutus qui tue César, hein, c'est le Brutus qui fonde la République. Suite à, voilà, au viol de Lucrèce, hein, voilà, par les Tarquins. Donc c'est la fin de la monarchie, début de la République. Et ceux qui vont répondre, donc Madison et Hamilton, ceux qui répondent à Brutus, ils vont s'appeler Publius, un autre fondateur de la République. Donc vous voyez, il y a vraiment tout ce côté romain qui est très présent. Et c'est pour ça que quand vous visitez Washington, vous avez l'architecture est voilà, néo-romaine. Enfin, c'est assez intéressant. Les États-Unis à l'époque se pensent comme la nouvelle Rome. Et donc, quand vous lisez les opposants à la Constitution américaine, qui sont majoritaires, quand vous les lisez, au tout début, ce qu'ils font, c'est ils sont assez amusants, ils disent, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite clore la conversation, on va citer Montesquieu. Aujourd'hui, quand vous lisez, voilà, si vous écoutez Trump, etc., ou la vie politique américaine, il est assez rare, quoique, qu'on cite Montesquieu, mais à l'époque, c'est vraiment la base, quoi. On commence par citer Montesquieu pour clore la conversation. Et le texte qu'il cite à chaque fois, c'est celui-ci. Donc c'est un texte très célèbre de Montesquieu dans l'Esprit des lois, au livre 8, chapitre 16 de l'Esprit des lois. Il est de la nature d'une république qu'elle n'est qu'un petit territoire. Sans cela, elle ne peut guère subsister. Dans une grande république, il y a de grandes fortunes et par conséquent peu de modération dans les esprits. Il y a de trop grands dépôts à mettre entre les mains d'un citoyen. Les intérêts se particularisent. Un homme sent d'abord qu'il peut être heureux, grand, glorieux, sans sa patrie, et bientôt qu'il peut être seul grand sur les ruines de sa patrie. Dans une grande république, le bien commun est sacrifié à mille considérations. Il est subordonné à des exceptions. Il dépend des accidents. Dans une petite, le bien public est mieux senti, mieux connu, plus près de chaque citoyen. Les abus y sont moins étendus et par conséquent moins protégés. Donc l'argument est très simple. Les antifédéralistes, les opposants, prennent les États-Unis, ils prennent une carte, ils disent, bah, vous voyez, Montesquieu, quand il parle des républiques, il parle de tout petits États où le bien commun est connu, senti. Comment est-ce que vous voulez que le bien commun existe dans un territoire aussi vaste que les États-Unis? Comment vous voulez que les citoyens aient les mêmes intérêts? Effectivement, c'est une question assez vertigineuse, même aujourd'hui, à mesure que les États s'étendent. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le bien commun subsiste? Surtout qu'à l'époque où est Montesquieu, évidemment, les intérêts se particularisent, les classes sociales commencent à exister, et ses opposants commencent déjà à parler de classes, bien avant Marx. Ils disent qu'il y a des classes sociales qui existent. Est-ce qu'on est sûr qu'elles auront le même intérêt? Sans doute pas. Donc, la solution de Brutus, c'est de dire, donc Brutus, voilà, qui est le leader des opposants, c'est de dire, écoutez, si on se fie à Montesquieu, il est impossible que les États-Unis soient une république. Donc, on arrête tout, on abandonne le projet de république. Chaque État va rester dans les limites qui lui ont été attribuées après la Révolution, donc les 13 États, et la république va rester au niveau des États. On veut bien faire une sorte de ligue d'association au niveau des 13 États pour certains objets, pour certains sujets. Par contre, il est évident qu'on ne va pas donner trop de pouvoir au niveau confédéral. Vous voyez, on va garder tout le pouvoir au niveau des États parce que c'est uniquement là que la République, que la démocratie est possible. Aujourd'hui, donc si vous faites de la science politique, si vous suivez un peu les médias, vous comprendrez qu'en Europe, au niveau de l'Union européenne, les mêmes problèmes se posent. Et donc c'est assez amusant quand vous voyez des gens sur les plateaux de télé qui disent « Oh là là, c'est très compliqué ce qui se passe en Europe, comment est-ce qu'on va faire et tout ?» Bon, les historiens disent « Bah en fait, c'est pas très compliqué du tout, c'est pas très original, c'est ce que se posent tous les régimes confédéraux ou fédéraux. » Donc ça a déjà eu lieu, on a déjà fait l'expérience, et c'est toujours la même chose. Les États, et ça c'est ce que dit Montesquieu, les États se fédèrent parce qu'ils n'ont pas le choix. À l'époque, les États-Unis, ils auraient bien, tous les États, les 13 États, ils auraient préféré rester tranquilles dans leur petit État, sauf qu'en fait, il y avait tellement de menaces intérieures et extérieures qu'ils n'ont pas eu le choix. Et donc, ils se sont fédérés. Les fédérations se créent parce qu'il y a un ennemi, que ce soit l'Empire d'Espagne ou l'Empire de Russie. Voilà. Bien. Donc, les arguments de Brutus font mouche, c'est destructeur, c'est très violent. Brutus, donc petit appendice, on ne sait pas qui c'est. Et donc, moi, j'aimerais bien faire une sorte de show musical sur Brutus, hein, c'est un de mes grands rêves. Voilà, donc on va voir si ça marche. Il y a un côté assez fascinant, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a fait peur à tous les pères fondateurs. Donc Madison, on a une lettre de Madison qui écrit à un de ses amis qui dit « Je viens de lire là dans la presse quelqu'un qui s'appelle Brutus. Il dit c'est un nouveau combattant. Et il dit alors là, il est vraiment, ses arguments sont brillants et on est menacé, on va peut-être perdre. » Et il avait raison parce qu'ils ont perdu à New York. C'est-à-dire que Brutus, il écrit parce qu'il ne veut pas que les citoyens de New York y valident la Constitution. Et il va avoir une sorte de première campagne médiatique politique aux États-Unis qu'on connaisse. Et donc, à coup d'articles dans la presse, les opposants et les partisans à la nouvelle Constitution fédérale vont s'affronter. Et alors là, si vous voulez avoir un aperçu de ce qui se passe à l'époque, de comment est-ce qu'on se bat à l'époque, donc c'est pas du tout des TikTok, hein, voilà, il y a très peu de... Voilà, Madison n'a pas sa chaîne TikTok, donc ce qu'il fait, c'est que... Et pareil, il n'y a pas de tweet en 140 caractères ou etc. Non, non, là, ils envoient vraiment des... Enfin, c'est très long. Ils envoient 85 articles de 5 pages. Donc tous les jours, vous avez des explications de pourquoi est-ce qu'il faut accepter la Constitution. Bon, au final, Madison et Hamilton vont perdre. Les arguments les plus convaincants, ce seront ceux de Brutus. Et donc ça, c'est fondamental pour bien comprendre ce qui se passe à l'époque. Parce que les étudiants américains, et alors jusqu'à la Cour suprême, hein, Donc ça, c'est assez sidérant, hein. Donc lorsque vous connaissez cette situation, la Cour suprême, donc c'est celle qui décide en dernier ressort aux États-Unis, hein. Donc on y a un conflit d'interprétation sur une loi, c'est la Cour suprême qui dit le droit. C'est ce qui s'est passé pour l'avortement. L'avortement était protégé au niveau fédéral, et puis donc récemment, la Cour suprême a dit, en fait non, en fait on s'est trompé. Donc on va plus protéger l'avortement au niveau fédéral, on va renvoyer ça aux États. Et alors bon, sur la question sur l'avortement, ils se sont basés parfois sur des... Ils ont cité des traités du Moyen Âge, hein, du 14e siècle par exemple, voilà, en disant... bon. Et très souvent, le texte que citent le plus souvent les pères fondateurs, c'est le Federalist, donc les Federalist Papers, donc c'est-à-dire ce recueil d'articles dont je vous parle, c'est-à-dire dans la presse, chaque jour, les pères fondateurs écrivent et disent oui, il faut adopter la Constitution pour telle et telle raison. Et donc ça, c'est un livre que lisent tous les historiens américains, que lisent tous les juristes américains. Et donc c'est un texte, c'est un peu comme la Bible. Selon l'interprétation de ce texte, vous pouvez décider de la vie de centaines de millions d'Américains. Vous dites, bah... Moi, d'après le fédéralisme numéro 10, je pense que l'avortement, ça devrait être illégal. Et donc, d'un trait de plume, vous barrez l'accès à 150 millions de femmes voilà, qui peuvent ou non disposer de leur corps en vous basant sur un texte qui a été écrit à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, donc c'est assez vertigineux quand même comme problème. Vous comprenez bien que c'est une difficulté d'autant plus grande que ce texte-là, en réalité, il a été écrit uniquement pour répondre à cette personne, à ce Brutus. Parce que, en fait, on voit bien que la première lettre dans la presse américaine contre la Constitution, elle est écrite par Brutus, et qu'une semaine plus tard, vous avez le premier article du Fédéraliste dans la presse new-yorkaise. Donc le Fédéraliste, c'est une œuvre qui répond à des arguments. Donc si les juges de la Cour suprême veulent se servir du Fédéraliste, ils sont obligés de se servir également des lettres de Brutus. Donc vous voyez, rien qu'en faisant cette petite, voilà, petite leçon, on va dire, au juge de la Cour suprême, on pourrait peut-être changer certaines décisions, ou en tout cas critiquer la façon dont ces décisions sont prises. Parce qu'on peut demander à la Cour suprême, pourquoi vous vous basez sur ce texte-là qui a perdu? Pourquoi vous vous basez sur des arguments qui ont perdu politiquement? Pourquoi vous ne basez pas plutôt sur les lettres de Brutus qui ont gagné politiquement? Vous voyez, rien qu'en faisant ça, on interroge en fait le récit qui est fait et les justifications qui sont faites des actes de la Cour suprême. Et ça, en démocratie, c'est fondamental. C'est pour ça que l'étude de l'histoire que vous avez tous, l'étude de l'histoire, de la philosophie, des sciences sociales, des langues également, parce que pour ensuite, eux, ils lisent Montesquieu en français. Parfois, ils le lisent en traduction. Parfois, ils le traduisent eux-mêmes. Et les traductions, parfois, quand vous changez un terme, par exemple, le mot de État libre, free state, les distinctions sont parfois très importantes. Bien, donc, les pères fondateurs perdent le débat, mais malgré tout, le débat est extrêmement intéressant parce qu'ils ont différents arguments. Il y a un argument, je vais me dépêcher, je vais terminer maintenant. Il y a un argument qui est extrêmement amusant. C'est l'argument de Hamilton. Donc il y a deux types d'arguments. Le premier argument, c'est celui de Hamilton, et c'est de dire, parce qu'Hamilton connaît très bien l'esprit des lois, il le connaît par cœur. Donc en fait, quand les pères fondateurs, vous voyez, je vous ai cité un extrait tout à l'heure, ils disent oui, enfin quand Brutus dit oui, c'est trop grand la République, donc on peut pas, enfin c'est trop grand, pardon, l'État américain, donc on peut pas avoir de République sur cet État. Hamilton dit, bon bah je vois que Brutus ne sait pas lire, ou alors voilà, il est un peu feignant, donc il n'a pas lu la fin de l'esprit des lois. Parce qu'il dit, s'il va quelques pages plus loin, il va trouver une solution que Montesquieu amène lui-même. Et c'est vrai qu'au livre 9 de l'Esprit des lois, donc quelques pages après l'extrait que j'ai cité, Montesquieu trouve une sorte de solution et dit effectivement, les républiques sont petites, mais comme elles sont petites, elles sont menacées par des monarchies, par des empires. Et donc, une solution qu'elles ont trouvée, c'est de s'associer entre elles et de créer des confédérations ou des fédérations ou des ligues. Il y a beaucoup de termes comme ça qui. Pas exactement dire la même chose. Et donc ces associations-là sont une manière pour elles de rester dans les bornes qui sont les leurs, donc de rester des petits États avec un mode de fonctionnement vertueux, donc républicain au niveau de chaque État, de chaque République, et en même temps d'avoir la force commune, parce que du même coup, vous avez la force de tous les associés. Au lieu d'avoir une armée avec un seul État, avec vos seuls citoyens, vous avez l'armée avec des citoyens de 10 pays avec lesquels vous êtes associés, 20 pays, etc. Donc vous pouvez répondre aux agressions des différents pays qui sont peut-être pas des républiques, qui sont peut-être plus gros, plus agressifs, etc., etc. Donc ça, c'est le premier argument, c'est de dire, au fond, on peut trouver chez Montesquieu des réponses à Montesquieu. On peut utiliser Montesquieu contre lui-même, ce qui est assez malin. Un deuxième argument, également fondamental, et je vais m'arrêter par là et je vais faire un pont avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'argument de Madison, qui est un argument absolument fascinant. C'est de dire, en fait, la République fédérative que propose de fait Montesquieu, cette République, elle permet d'avoir une distribution ou séparation des pouvoirs, vous avez peut-être entendu ce terme-là, une séparation des pouvoirs, beaucoup plus efficace. Parce que vous aurez non seulement une séparation des pouvoirs au niveau de chaque, donc au niveau fédéral, hein. C'est quoi les trois pouvoirs? Législatif, exécutif, judiciaire. Et cette distinction-là des trois pouvoirs, elle date de Montesquieu. Vous vous rendez-vous compte, hein? Donc quand je vous disais que contre les rousseauistes, on vit dans des sociétés à la Montesquieu, rendez-vous compte qu'on n'a pas changé depuis 1748, publication de l'Esprit des lois. Il n'y a aucun pays démocratique sans ces trois pouvoirs-là. Jusqu'alors, effectivement, ces trois pouvoirs, ils pouvaient être fondus en une seule personne. Le roi de France, il avait les trois. On ne distinguait même pas vraiment, en fait, ces trois pouvoirs. John Locke, dans le second traité de gouvernement civil, distingue entre différents pouvoirs, mais ce ne sont pas les mêmes pouvoirs, hein. Donc, il faut vraiment attendre Montesquieu pour que les trois pouvoirs soient vraiment définis comme tels. Et ensuite, évidemment, comme vous le savez, il y a cette séparation des trois pouvoirs. Montesquieu dit, il ne faut jamais que les trois pouvoirs soit en même temps dans la même personne. Car si c'est le cas, alors vous avez un despotisme. Bien. Et donc Madison dit, eh bien, dans la République fédérative, évidemment, on aura ça, mais en plus, on aura une double séparation des pouvoirs. On aura une séparation des pouvoirs qui sera au niveau horizontal, c'est-à-dire que horizontal, c'est les trois pouvoirs qui ont été cités au niveau du gouvernement fédéral. Mais vous aurez également une séparation des pouvoirs verticale. Pourquoi? Parce que dans chaque État également, vous aurez une séparation des pouvoirs et vous aurez une concurrence des pouvoirs entre le niveau fédéral et le niveau des États. Chaque État sera jaloux de ses pouvoirs et le gouvernement fédéral ne pourra donc pas faire tout ce qu'il veut puisque les États auront une part du pouvoir. Donc en fait, dans la République américaine, vous allez diviser le pouvoir. Vous allez le diviser deux fois. Et ça, c'est la différence entre les États unitaire comme la France, où le pouvoir est uniquement divisé au niveau horizontal, et les États fédératifs, les États associés, où vous avez une division des pouvoirs à la fois horizontale et verticale. Et pour Madison, Hamilton et tous les pères fondateurs, c'est un vrai progrès de la science politique, parce que plus vous divisez le pouvoir, plus vous assurez la sécurité, la sûreté des citoyens. Bien. Donc ça, c'est la solution de... Alors la solution, c'est la réponse qui est donnée à Madison et à Hamilton. Et maintenant, on va faire un flash forward. Au final, ils gagnent. La Constitution américaine est adoptée. Elle est ratifiée en 88. Et le premier président américain est élu en 89. Donc qui est le premier président américain? George Washington. George Washington, premier président américain, effectivement, qui fera deux mandats. Et ce qui est assez intéressant là aussi, c'est qu'il aurait pu en faire un troisième. Il aurait d'ailleurs pu être nommé empereur, parce qu'en fait, il était tellement populaire. Mais il a fait un geste là aussi très romain, à la Quinquinatus. Il a dit, j'arrête. Je laisse le pouvoir aux autres. Je transfère le pouvoir aux autres. Voilà. On passe aujourd'hui à ce qui se passe, et je vais m'arrêter là. Tout ça a duré 250 ans. On ne sait pas si ça va durer encore 250 ans. Mais si vous suivez les actualités, vous voyez bien qu'il n'y a pas un jour sans qu'on parle des États-Unis, pour beaucoup de raisons. Et d'une certaine façon, l'état de droit aux États-Unis, hein, la séparation des pouvoirs, la distribution des pouvoirs, elle est vraiment tous les jours attaquée par l'administration Trump, hein, par le président Trump, qui teste le système, en fait. Et ça, c'est assez passionnant. Maintenant, d'une certaine façon, il ne faut pas être trop rapide à critiquer Trump parce que pour Montesquieu, il est tout à fait normal que l'exécutif essaye de s'emparer de tous les pouvoirs. Montesquieu le dit au chapitre 6 du livre 11 de l'Esprit des lois, tout homme qui a du pouvoir cherche à en abuser. Donc, il n'y a pas de jugement moral. C'est-à-dire que quand vous avez du pouvoir, vous en avez tous fait l'expérience, hein, on a tous fait l'expérience d'une personne qui a un tout petit pouvoir. Voilà, par exemple, je donnerai pas, peut-être je donnerai pas d'exemple, mais une gardienne d'immeuble, voilà, un petit peu sévère, un petit peu, voilà, qui a son petit pouvoir, et finalement c'est un tout petit pouvoir, mais le pouvoir de nuisance est très important pour vous, parce que vous êtes vraiment complètement dépendant de cette personne, et vous dites le pouvoir lui monter à la tête. Montesquieu dit, tout homme, toute femme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Voilà. Porté à en abuser. Et donc Montesquieu dit, en fait, il ne faut pas critiquer les gens qui ont du pouvoir. Ceux-là, ils vont chercher à en avoir plus. Ce qu'il faut faire, c'est donner assez de pouvoir à chacun pour lutter contre les autres. C'est pour ça que les pouvoirs, en fait, ils ne sont jamais séparés. Donc quand vous entendez, d'ailleurs, maintenant, vous pouvez rentrer chez vous, si jamais on vous parle de séparation de pouvoir, vous pouvez dire, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'existe pas. Montesquieu ne dit jamais séparation des pouvoirs. Vous aurez l'air très malin, voilà, en soirée, si vous voulez dire ça, lors des dîners mondains. Dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Pas de séparation des pouvoirs, Montesquieu ne le dit jamais. Vous pouvez dire, Montesquieu me dit même l'inverse. Montesquieu dit, il faut que les pouvoirs soient mêlés et fondus. Donc on dit, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que les pouvoirs soient. Il dit à la fois, il ne faut pas qu'ils soient tous dans la même personne, mais en même temps, il dit qu'il faut qu'ils soient mêlés ensemble. En fait, là aussi, vous pouvez continuer à. Si votre adversaire commence à être embarrassé, vous pouvez dire, mais regarde même ce qui se passe aujourd'hui. Regarde, la France, le président de la République, c'est l'officier du pouvoir exécutif, on est d'accord. Donc il possède le pouvoir exécutif. Il possède même l'intégralité du pouvoir exécutif. Est-ce qu'il possède d'autres types de pouvoirs? Bien sûr. Il possède une part du pouvoir judiciaire. C'est le droit de grâce. Le droit de grâce était un exercice du pouvoir judiciaire. Vous pouvez annuler une sanction juridique. Aux États-Unis, c'est la même chose. Le président Trump possède une part du pouvoir judiciaire. Mais il n'a pas tout le pouvoir judiciaire. Il en a une partie. De la même façon que lorsque le président Trump passe un executive order, c'est une part du pouvoir législatif. Donc, le président américain dispose non seulement de son pouvoir, mais d'une partie des autres. Maintenant, est-ce que c'est la même chose pour tous les autres pouvoirs? Bien sûr. Prenons le Congrès américain, ou même, pour le coup, les systèmes sont là, c'est un peu pareil, la Chambre, l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous voyez, normalement, le législatif, effectivement, la majorité du législatif est avec le Congrès. Et ça, c'est fondamental, hein. Ça, c'est vraiment un point sur lequel ont insisté les pères fondateurs. Le législatif ne doit jamais appartenir à une seule personne. Sinon, les risques sont trop grands. Car le législatif, c'est le pouvoir le plus important. Si vous prenez la Constitution américaine, ça commence. C'est pas dans le désordre. Article 1 du pouvoir législatif. C'est pas article 1 du pouvoir exécutif. Il y a un ordre. Il y a une hiérarchie. Mais le Congrès, évidemment, c'est lui qui fait les lois. Mais le Congrès possède également une partie du judiciaire. Lorsque. Alors, non seulement parce qu'il nomme les juges, il valide les juges, le Sénat valide les juges fédéraux. Mais lorsque il faut, par exemple, faire un impeachment contre un juge ou contre le président des États-Unis d'Amérique, seule la Chambre, seul le Congrès peut le faire. Un tribunal ne peut pas juger le président, mais le Congrès le peut. Donc le Congrès possède une part du pouvoir judiciaire. De la même façon, la Cour suprême et la Cour suprême et le judiciaire contrôlent sans cesse l'action du législatif. Et l'exécutif. La séparation des pouvoirs n'existe pas, c'est un mythe. Il y a une distribution des pouvoirs et évidemment une sorte de confusion ou mélange des pouvoirs. Et il le faut, parce que sinon, sinon les pouvoirs seraient. Sinon, Montesquieu dit, sinon le législatif prendrait tout le pouvoir, parce que le pouvoir le plus important, c'est celui de faire les lois. Donc le législatif dirait, voilà, on va faire plein de lois. On va faire une loi qui annule l'exécutif et le judiciaire, et puis c'est fini. Donc non, il faut que les pouvoirs puissent se résister les uns aux autres. C'est pour ça que le président américain, si on lui propose une loi, eh ben, il peut dire non. J'appose mon veto à la loi. Et le Congrès, s'il veut vraiment que la loi passe, il doit voter aux deux tiers pour outrepasser le veto du président. Donc sans cesse, alors aux États-Unis, beaucoup mieux qu'en France. En France, on a un système de concentration des pouvoirs beaucoup plus fort dans les mains de l'exécutif, pour des raisons historiques et institutionnelles. Aux États-Unis, normalement, vous avez beaucoup plus de distribution des pouvoirs. Donc si le président américain avait les mêmes pouvoirs que le président français, on imagine que là, il y aurait, voilà, la situation serait peut-être plus compliquée encore aux États-Unis. Donc vous voyez bien, aux États-Unis, en ce moment, malgré tout, le système tient encore grâce à la séparation des pouvoirs, à la division des pouvoirs, encore récemment, le Sénat a pris des décisions qui vont à l'encontre de Trump. Les cours continuent leur travail, les cours annulent des décrets passés par Trump. Tout ça remontera à la Cour suprême, etc., etc. Donc, grâce à la séparation des pouvoirs, d'une certaine façon, les États-Unis sont encore une république représentative où existe une liberté pour les citoyens, mais cette liberté, cette sécurité, cette sûreté, elle est menacée aujourd'hui. Elle est menacée comme rarement auparavant. Et dernièrement, c'est ce qui préoccupe tout le monde, c'est je m'arrêterai sur ça. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont très préoccupantes, mais en ce moment, c'est les tarifs. Vous avez sans doute entendu parler des tarifs, etc., etc. Est-ce que vous trouvez pas ça bizarre, après tout ce que je vous ai dit, l'importance du Congrès, du pouvoir législatif, que le président puisse tout seul, unilatéralement, décider d'une loi? C'est un peu bizarre. Et si on avait dit ça au père fondateur, ils auraient dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien compris à ce qu'on a essayé de faire. Pourquoi se sont battus? La révolution américaine, c'est parce que c'est contre la taxation unilatérale de Grande-Bretagne. Et donc, ce qu'ont fait les pères fondateurs, c'est qu'ils ont dit, le pouvoir de lever l'impôt appartiendra à une seule personne, enfin une seule personne, à un seul corps, au Congrès. Il n'y a que le Congrès qui a le droit de lever les impôts. Qu'est-ce que c'est un tarif? C'est un impôt. Donc là, il y a un paradoxe. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure de l'évolution institutionnelle, le Congrès a donné de plus en plus de pouvoir au président en matière de tarifs douaniers. Et donc, il y a eu plusieurs lois, la dernière en 77. Dans certains cas, et c'est ce que fait Trump, le président peut déclarer une urgence. Donc, par exemple, quand il y a une guerre, il peut déclarer un état d'urgence et imposer unilatéralement des tarifs. Et donc, c'est pour ça que. En ce moment, Trump, aujourd'hui, à partir de minuit, donc hier, à partir de minuit aux États-Unis, les tarifs sur la Chine sont à 100%. Donc tout ce que vous importez de Chine est à 100%, d'Europe à 20%, etc., etc. Et demain, ça peut être 200%. Il n'y a aucune règle, en fait. Et donc ça commence à titiller les gens au Sénat et à la Chambre qui se disent ça, c'est un peu dangereux. Et donc peu à peu, ils essayent, et ils ont le droit, parce que c'est le Congrès, ils ont le droit de reprendre ce pouvoir-là. C'est leur pouvoir. Ils l'ont délégué à l'exécutif. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a les cours, ils vont pouvoir porter plainte parce que la cour peut décider qu'il n'y a pas vraiment d'état d'urgence et que donc le président n'est pas fondé à utiliser ce pouvoir d'urgence et donc les tarifs pourraient être annulés par le judiciaire. Distribution des pouvoirs. Le judiciaire restreint l'exécutif. Parce que, pourquoi? Parce que le législatif n'est pas content. Mais le législatif peut aller avoir également l'option nucléaire et dire, bon, ça suffit, on révoque la loi qu'on avait votée qui donne délégation au président pour les tarifs, on reprend le pouvoir et l'exécute. Alors, le président pourrait dire, je fais un veto sur la loi, et le Congrès pourrait dire, ah oui, eh bien, nous nous réunissons et aux deux tiers, nous votons la loi, vous n'avez pas le choix, la loi passe. Et ça, j'espère que ce serait beau que ça se passe, et ça, si ça se passe. Ce n'est pas le signe que la démocratie ne fonctionne pas, que la République ne fonctionne pas, c'est le signe qu'elle fonctionne. Parce que, et je vais m'arrêter par là, la grande leçon de Montesquieu, le grand débat de l'époque, au XVIIIe siècle, c'est comment est-ce qu'on va faire si les hommes ne sont pas vertueux, si les hommes et les femmes ne sont pas prêts à sacrifier pour la patrie, pour la République, s'ils ne sont pas prêts à penser au bien commun, eh bien, qu'est-ce qu'ils sont les hommes? Après Machiavel, on dit bah, ils ont des intérêts particuliers, ils sont égoïstes, ils sont pas mauvais, mais ils sont portés par leur propre intérêt. Et bien Montesquieu dit, bah, on va se servir de ça. On va se servir de ça, on va mettre en place une institution qui transforme l'avidité en liberté. Chaque pouvoir, chaque institution va non pas vouloir le bien commun, elle va vouloir son bien propre et le bien de son propre pouvoir. Le législatif voudra défendre ses intérêts, l'exécutif ses intérêts, le judiciaire ses intérêts. Et de cette conflictualité entre les diverses institutions, paradoxalement, naîtra la liberté des citoyens. Parce que le citoyen sera assuré que les trois pouvoirs ne se mettront jamais d'accord pour s'attaquer à lui. Et voilà, c'est ça la grande invention des États-Unis. Merci.